Ground control to Major Tom.
Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, voilà, vous avez rendez-vous avec nous, soirée énervée qui fait coup double chaque soir. On est podcastable, vous le savez, dès 18h avant le passage antenne de 22h à minuit. Bienvenue à toutes et à tous. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est David Bowie, sa mise en orbite, parce qu'on vient de fêter fin 2019 les 50 ans de son album Space Oddity. Et là, début janvier, eh bien ça va faire 4 ans que Bowie nous a quittés. C'était le 10 janvier 2016. L'occasion de se replonger ce soir dans sa discographie avec la publication du premier tome d'une histoire de David Bowie à travers ses albums et ses personnages. Une histoire racontée par ceux et celles qui l'ont côtoyé, interviewé, travaillé et écouté. Alors, que révèlent ces chansons de Bowie et de David? On en parle ce soir avec Benoît Lagan et nos invités. Jérôme Soligny, les musiciens, écrivains, journalistes musicaux, c'est lui qui signe ce David Bowie Rainbow Man 1967-1980 chez Gallimard. À ses côtés, Charles Berberian, auteur de BD et méloman, auteur entre autres de playlists chez Helium et de jukebox chez Fluide Glacial. À leur côté, Carole Boinet, elle est journaliste et critique musicale aux Inrocks. Kent devrait nous rejoindre, on le connaît comme auteur, compositeur, interprète. Il vient de dessiner une BD sur une autre figure musicale, Elvis, Ombre et Lumière, aux éditions Seuil Delcourt. Avec nous aussi, bien sûr, Marion Guilbeault, qui connaît son Bowie sur le bout de ses doigts. Elle a tout révisé et en live, Marion Guilbeault, ce soir, notre invitée.
Eh ben, elle aussi, elle s'est choisie un personnage hein, pour incarner une version féminine, voire féministe de la chanson. C'est la Grande Sophie. Elle est en live, piano-voix, à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole. Cette semaine, France Inter plus d'Albert Camus. Ce soir, c'est le journaliste qui nous intéresse. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Left off. Jérôme Soligny, je vais commencer par vous. Vous étiez en train de boire de l'eau, je rassure tout le monde. À la mort de David Bowie, je me rappelle, vous ne vouliez pas vous atteler à la tâche, ne pas profiter de la mort de l'artiste. Mais Gallimard a su vous convaincre au point d'écrire une somme de quasi 600 pages sur David Bowie, ce fameux Rainbow Man qui vient de paraître. Qu'est-ce qui vous avait changé d'avis, à part l'argent?
ça aurait été bien, ça aurait été une bonne matière. Non, un éditeur, Aurélien Masson en l'occurrence.
Ah, il est super.
Voilà, Aurélien qui avait amené Patti Smith chez Gallimard, donc il était écouté, on va dire, et grosso modo, qui m'a dit, on a compris, tu veux pas cachetonner sur le décès, tout ça, respect, bon, bref. Par contre, moi, je te dis la chose suivante, tu réfléchis, tu nous proposes quelque chose, si tu as envie, quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose qui n'a jamais été fait, je te donne une semaine, tu me rappelles.
Une semaine pour l'écrire,
non. Une semaine pour réfléchir.
600 pages en une semaine.
Non, j'adore, tout d'un coup, c'est devenu autre chose. Quoi. Là, il y avait un vrai challenge.
Oui. Et finalement, donc l'idée, c'était quoi alors?
L'idée, ça a été de faire parler les gens, ça a été de faire parler les musiciens qui l'ont entouré. Alors forcément, faire parler les connus, les plus connus, c'est facile, mais du même coup, je me suis attaqué au deuxième, troisième, quatrième couteau. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de toile, de portrait relativement détaillé, on va dire, relativement chiadé, de ce qu'était Bowie, l'artiste, puisque ça ne parle que de ça.
1967-1980, ça c'est le premier tome, c'est le corpus que vous avez donné. 80, pourquoi vous arrêtez à cette date?
Parce qu'après, c'est Let's Dance, donc après, ça va être cet album totalement différent. Enfin, en tout cas,
de toute façon, tous les albums sont différents.
Ouais, sauf que à partir de Let's Dance, en tous les cas, le temps de Let's Dance, Bowie décide d'être une superstar. En tous les cas, il dit tiens, je vais me déguiser en superstar et en plus, cet enfoiré, il va y arriver. Donc voilà, c'était un bon moment pour couper la poire en deux. Malgré tout, le deuxième tome va être un tout petit peu plus long puisqu'il y a Black Star dedans et que Black Star, ça a été prétexte à beaucoup de parlottes des gens que j'ai côtoyés.
Que vous avez côtoyés. Alors l'idée aussi, c'est de raconter Bowie par ses albums plutôt que de le raconter par sa vie. Qu'est-ce que ça vous permettait de révéler qu'une biographie n'aurait pas suffi?
Mais en fait, il y a beaucoup de... ce n'était pas un choix délibéré, mais c'est quand même le cas. Il y a beaucoup de destruction de mythes et légendes dans ce livre-là, puisqu'en fait... effectivement, plutôt que de raconter ce que tout le monde raconte toujours, j'ai fait un boulot qui est plus proche d'un travail d'historien, en toute modestie, qu'un travail journalistique. C'est-à-dire qu'a priori, mon avis, on s'en fout un peu, mais j'ai vraiment poussé beaucoup de. Enfin, je suis vraiment allé dans tous les recoins de son œuvre. J'ai parlé aux gens qui tenaient les studios, aux ingénieurs du son qui le voyaient. L'ingénieur du son, le deuxième assistant, on dit c'est pas un type important, sauf que c'est lui qui ouvre la porte le matin et c'est lui qui la ferme le soir. Donc il passe 18 heures avec Bowie si Bowie il a 18 heures. Et finalement, il le voit plus longtemps que le guitariste star qui passe, qui fait son solo et qui se barre, quoi.
Alors, ce qui est vraiment génial dans le livre, c'est qu'on apprend une chose qu'on ne savait pas, c'est que Bowie ne chantait pas ses chansons. Mais non,
je me dis tiens, on parle pas du même livre.
Tiens, non, on parle de Plastic Bertrand, par exemple.
C'est pas entièrement faux, puisque
non,
mais il inventait des personnages, oui. Parce que lui se sentait pas chanteur. Peut-être que je dis une bêtise.
Non,
mais...
tout à fait. Il ne s'aimait pas chanteur. Il aimait pas sa voix.
Il avait décidé d'attaquer, en tout cas, de se considérer plus comme un acteur et d'inventer à chaque fois des personnages qui chanteraient ces chansons-là.
Quel est le personnage qui vous intéresse le plus, vous, Charles Barbarian?
Moi, c'est Bowie, de toute façon, parce que je trouve que c'est un artiste fascinant, c'est un artiste qui a pu approfondir en plus sur la durée ce qu'il avait déjà commencé à creuser au départ, c'est-à-dire une expérience, quelque chose qui suivait les pistes déjà montrées par Iggy Pop ou par Lou Reed, mais il est fascinant parce qu'il a justement il a incarné plein de personnages différents et que finalement cette addition, cette somme de personnages différents, ben c'est lui. Et moi, j'adore ce genre de personnages protéiformes, comme en bande dessinée, par exemple Moebius. Voilà, je suis fasciné par ça.
Carl Boinet, vous, il y a un personnage qui vous intéresse plus que les autres?
Non, mais c'est exactement la même réponse.
Bon, même réponse. On comprend au montage.
J'ai commencé avec Ziggy, mais bien sûr. Ah ouais. Moi, j'ai commencé avec Ziggy parce que j'étais fan de glam rock, donc très rapidement, c'est comme ça que j'ai accroché avec Bowie. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Bowie, c'est vraiment son côté, comme vous disiez Charles, c'est vraiment le côté, en fait, je trouve trajectoire quasiment philosophique, c'est-à-dire c'est vraiment, en fait, comment se transcender soi-même, et en fait, comme c'est de l'autodétermination permanente, en fait, de l'auto-affirmation, et je trouve ça vraiment passionnant, en fait, c'est comment la fiction rencontre la réalité.
Alors, Guilbeault, c'est la même réponse? Vous avez quand même un personnage.
C'est pas une histoire. Non, c'est pas une histoire de personnage. C'est une histoire qui, en fait, Bowie, c'est un. Je pense que c'est le seul qui a ce statut-là, qui fait que quand tu l'écoutes adolescent, adolescente, à n'importe quel âge où tu le découvres, mais quand tu le découvres adolescent, c'est quelqu'un qui te montre presque tous les possibles. Il parle de genre avant que ce soit la mode, il parle de drogue, tout le monde comprend de quoi il s'agit, même si c'est codé. Enfin, il parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'aventure, d'espace. Et je pense qu'il ouvre, moi, il m'a ouvert vraiment la porte de la musique. C'est comme ça qu'après, j'ai pu écouter beaucoup, beaucoup de choses.
Mais Jérôme Souligny, justement, là, on parle des personnages. Vous, en décortiquant, en entrant dans la mécanique à l'œuvre chez David Bowie, justement, vous avez rencontré quel type de personnage, au-delà des personnages, justement, quel était le créateur Bowie, au final?
En fait, ce qu'on se rend compte, très honnêtement, et c'est encore pire à la lecture du deuxième tome, mais ce que je veux dire,
c'est le premier tome vient de paraître.
Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant l'ensemble de l'œuvre, on s'en rend vraiment compte, c'est qu'à la fois c'était quelqu'un de tout à fait déterminé. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, et qu'en fait c'est un personnage qui n'a pas tant évolué que ça dans le fond. Il a énormément évolué dans la forme, mais il a pas tant que ça évolué Il a beaucoup évolué. J'ai dit le contraire. Merde. Il a beaucoup évolué dans la forme, mais pas tant que ça dans le fond. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est d'autant plus troublant que ce qui va faire que personne d'autre n'a fait, à mon sens, en tous les cas, mais aussi parce qu'il a duré très longtemps. Peut-être les Beatles l'auraient fait s'ils avaient duré plus longtemps. C'est qu'il a, il est devenu à un moment sa propre source d'inspiration. On parle toujours des inspirations multiples de David Bowie. Il y en a à pléthore. Le premier tome en est plein, bien sûr, on les connaît toutes. Il y en a qui sont un peu moins connues que d'autres, mais le fait est qu'elles sont toutes là. Mais à partir de 72-73, il va commencer à pomper dans sa propre mythologie. Et ça, c'est super rare et super bizarre.
Alors, vous avez fait appel à plein de gens qui ont travaillé avec lui. C'est vraiment tout l'intérêt du bouquin. Et vous citez notamment Craig Sanrock, une contribution majeure à l'ouvrage. À quel niveau? À quel titre? Qui est d'abord ce type?
Alors, ce type, c'est assez compliqué. Mais enfin, Bowie a fait du mime, comme beaucoup de gens le savent, avec quelqu'un qui s'appelait Lindsay Kemp, qui était un Anglais un petit peu excentrique. Et en fait, Craig Sanrock était un petit peu le metteur en scène des spectacles de Lindsay Kemp à l'époque où Bowie était. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les spectacles dont on parle, il y avait 25 personnes dans la salle. c'est un tout petit théâtre. Dana Gillespie raconte, c'est un tout petit théâtre. Parfois, on parle de choses qui, avec le temps, sont devenues totalement mythiques, mais en fait, il n'y avait pas grand monde dans la salle. La première fois que Iggy Pop a vu Ziggy Stardust sur scène, il y avait 250 invités, il y avait 30 entrées payantes, en fait. Et c'était dans une salle de pratiquement 600 places. Et Iggy dit dans le livre, bon, bah, c'était super bizarre parce que lui, c'est comme s'il avait été déjà dans une salle énorme, ouais, alors qu'on voyait au loin un type qui balayait, etc., des gobelets par terre. Enfin. Et Greg Saint-Roch, il a vraiment vu Bowie à un moment où Bowie est sorti de sa chrysalide. Et c'est pour ça. Alors, c'est un type qui aujourd'hui fait la psychanalyse, c'est un type qui habite en Australie, que j'ai retrouvé complètement par hasard. En fait, c'est quelqu'un qui m'a été conseillé par un des interviewés du livre. Il y a une partie des interviewés du livre qui m'ont été conseillés par des gens que j'ai interviewés. Et ça, c'était un vrai bonheur. C'est-à-dire que, avec cette carte de visite qui était Tony Visconti, ce qui m'a quand même beaucoup aidé.
C'est énorme.
Bien sûr. Du même coup, il y a des gens qui revenaient vers moi en disant, excusez-nous, on a cru comprendre que vous faisiez un livre sur Bowie. Est-ce que moi, je l'ai connu à tel moment? Est-ce qu'il est trop tard pour vous parler? Et j'ai dit non. Et Craig, c'est comme ça. Craig m'a été conseillé par le deuxième guitariste de Tin Machine, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et tout, mais qui avait entendu parler de lui. Et donc, il raconte un peu son passage où il part de Paris en mai 68. Finalement, il se passe. Enfin, il veut aller, il veut faire des choses à Paris en mai 68, mais tout est bloqué. Donc, il va à Londres et là, il rencontre Lindsay Kemp. Et Lindsay Kemp lui dit, tiens, j'ai ce petit gamin, je sais pas quoi en faire, qu'est-ce que t'en penses?
Il était raide comme un piqué.
Il était raide comme un piqué, etc. Mais de toute façon, Lindsay Kemp a indiscutablement appris à Bowie à se mouvoir. Ça, c'est indiscutable.
Mais pour quelle raison ils parlaient peu, tous ces gens qui étaient perdus au fond de
l'Australie?
Non, mais c'est parce que depuis la mort de Bowie, ça fait 4 ans maintenant, on aurait pu imaginer que beaucoup de gens seraient partis à la recherche pour faire parler tous ces gens.
Je dois vous avouer que quand j'ai suggéré cette idée à Aurélien, maçon, ça me paraissait tellement cuculapraline ou tellement simple comme idée. Je me suis dit, il va m'envoyer bouler. Il m'a dit, bah oui, en plus, personne ne l'a fait. Et c'est vrai que ce qui paraît bizarre, alors c'est pas, bien sûr, tout le monde parle à Tony, tout le monde parle au Carlos Alomar, à toutes les pointures. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai retrouvé George Murray, le bassiste de ces années, qui était le bassiste avec Carlos Alomar et Dennis Davis. Donc, il joue sur Station to Station, enfin, qui est un bassiste monstrueux, qui a beaucoup accompagné Bowie. Quand je l'ai contacté, la première question, ça a été, mais, comment ça que vous avez jamais parlé? Et sa réponse a été, on m'a jamais demandé.
Mais oui, c'est ça. Alors, je demande jamais aux musiciens, aux ingénieurs du son. Absolument jamais.
Voilà.
Et peut-être que c'est par peur de casser une sorte de mythe. Enfin, j'ai l'impression
Il est cassé, là.
J'ai l'impression que Bowie a tellement inventé cette espèce d'immortalité en créant ses personnages, en les tuant ensuite, en recréant d'autres. Enfin, une sorte de phénix, comme ça, qui renaît en permanence de ses cendres. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui accède quasiment pour la première fois, en fait, dans la musique, à une forme d'immortalité dans la mythologie, du moins, de l'audience et des journalistes.
Oui, c'est
qui
sûr.
Qui adorent ce genre de trucs.
Ils étaient contents de parler. Parce que une de ces qualités, qui est vraiment une qualité que personnellement, moi, je connais pas chez beaucoup d'artistes, mais qui est vraiment formidable pour moi, c'est qu'en fait, il fait appel aux gens pour leur talent. Et en fait, il fait pas appel aux gens pour leur dire, bon, tu sais quoi, t'es bon, fais ci, fais ça. Il fait appel aux gens et il attend comme ça. Et dès que la personne demande, mais alors, je fais quoi, là? Bah, tu fais ce que tu veux parce que je fais appel à toi parce que t'es bon, tu vas pas en plus. C'est pas moi qui vais te dicter ce qu'il faut faire, quoi. Et finalement, ces gens-là sont contents que je les, enfin, les musiciens, en tous les cas, sont contents d'avoir pu parler parce qu'ils me disent à quel point on était là, puis ils nous disaient, bah, allez-y, les gars, hein, et il y a beaucoup de morceaux, même très connus, qui sont nés d'espèces de jam où ils laissaient les musiciens jouer, il s'assied dans un coin, là, sur la chaise, puis au bout d'un moment, quand il entendait un truc sympa, il dit, tiens, voilà. Alors, c'est une drôle de façon de travailler, mais en fait, il faisait énormément confiance à ses partenaires. C'est-à-dire que le livre, j'avais parlé de destruction de mythes et de légendes tout à l'heure, il y a un truc que ça détruit complètement, c'est de pouvoir penser qu'il a été en contrôle total de sa carrière toute sa vie. Il a sûrement été en contrôle de l'aspect financier, peut-être à la fin, mais le livre n'est pas là-dessus. Mais en ce qui concerne l'art, il était tout à fait dans la souplesse et tout à fait dans l'ouverture. Le fameux solo d'Aladdin Sane de Mike Gerson de piano, personne l'a, il a pas dit à Mike, tu sais que tu vas faire un peu comme ça. Non, ils ont commencé par essayer de faire trois trucs un peu, où justement ils disent à Mike, tiens, essaye rock, essaye blues, essaye machin. Puis à un moment, ils disent, oh, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux. Et Mike a fait ça.
Charles Barberian, vous l'avez rencontré? Bah oui.
Non. Mais oui. J'ai rencontré, en fait, un guitariste qui a fait partie de la dernière tournée de Bowie, qui s'appelle Jeffrey Leonard, qui a joué aussi avec Suzanne Vega. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai pu le rencontrer. Et il y a une histoire que raconte Jeffrey Leonard qui illustre très très bien ce que vient de dire Jérôme Soligny. C'est Bowie était invité à participer à un concert collectif. Il devait chanter une chanson. Il voulait la chanter juste guitare voix. Donc il appelle Jeffrey Leonard. Il lui dit Loving the Alien. On peut la jouer si tu veux. Mais il donne aucune indication. Et Jeffrey Leonard écoute le morceau qui est sur un album, je crois c'est Never Let Me Down ou
c'est Tonight.
Tonight.
Enfin, c'est juste avant.
Et il dit mais c'est impossible. Il y a tellement de choses. Puis c'est très embrouillé. Et finalement, il arrive à réduire ça à une espèce de squelette hein, que va jouer la guitare de Jeffrey Leonard. Propose l'arrangement à Bowie. Bowie la chante. C'est une version qui est majestueuse, alors que la version sur le disque, même Bowie la critique. Et c'est la preuve que, effectivement, Bowie connaît la valeur de ses musiciens, leur fait confiance. Et ses musiciens, aussi ont confiance en Bowie. C'est-à-dire que quand il écoute le morceau, il se dit, c'est impossible, c'est une merde, enfin je sais pas. Mais il le réécoute, il commence à comprendre l'intérêt du morceau et il finit par décortiquer le morceau pour trouver son essence. Effectivement, c'est une très belle chanson.
Alain Guilbeault.
Non, moi je me demandais, Jérôme, vous l'avez rencontré quand même beaucoup, beaucoup de fois, ouais. David Bowie. Et là, en parlant avec, je reprends cette expression, même si elle est pas très gentille pour eux, troisième ou quatrième couteau, mais est-ce qu'ils vous ont appris quelque chose qui vous a réellement étonné sur lui, quelque chose que vous ne saviez pas?
Une des raisons pour lesquelles le livre a pris tant de temps à faire, et Gallimard a été bon super tolérant, ça a été compliqué, hein, mais c'est que, en fait, moi j'ai découvert des choses pratiquement tous les jours pendant 3 ans. Je leur ai beaucoup parlé. Quand vous voyez des demi-pages ou des colonnes d'interview, c'est souvent des heures d'interview réduites à une colonne et à une demi-page. Donc il a, avec ma femme Sophie, qui est journaliste aussi, mais plutôt dans le cinéma, mais elle m'a quand même énormément aidé. Mais j'ai appris des choses complètement incroyables.
Du style,
il avait un sens de l'humour, chose que je savais parce que je l'ai vu, comme dit Marion, parfois ouais. en dehors des contextes d'interview, etc. Mais par contre, de savoir que il avait un sens de l'humour qui pouvait parfois être en dessous de la ceinture, c'est pas la première chose qu'on s'attend de la part de David Bowie, quoi.
Bon, vous savez.
Et quand ça devient des.
Même non, moi.
Mais quand ça devient
ça,
des.
Ça, on a l'habitude, Laurent.
Non, mais c'est un exemple. Il y en a cinq. Je pense à celui-là parce que.
C'est dingue. C'est comme si vous travailliez avec Cyril Hanouna. Vous êtes.
Non, mais les gens ont toujours cette image d'un type, d'un espèce de dandy ultime, etc., et qui est pas capable de faire des blagues un peu.
Ouais,
non, il emmène les musiciens au musée. Alors ça, c'est formidable, quoi. Il arrive à Berlin avec les musiciens, il les dit, tiens, on va aller au musée. Alors les types, ils disent, dommage, on aurait peut-être pu aller boire un coup, plutôt. Mais non, ils vont au musée, alors ils se farcissent les expositions sur les peintres allemands des années 30, etc. Bon, voilà. Et puis ils disent, on regarde tout. Et celui-là est formidable. Ah oui. Alors ils sont. Ah, voilà, c'est des musiciens de New York qui se sont transplantés en Europe. Georges Beret, dont je parlais tout à l'heure, raconte. Enfin, il y a un chapitre qui est très 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 très
très développé.
Très développé. C'est le château d'Hérault. Enfin, c'est l'eau avec le château
d'Hérault.
J'ai essayé de parler à beaucoup de gens parce qu'on parlait souvent toujours aux mêmes personnes. Et là, j'ai voulu élargir. Je suis allé jusqu'à Cécile Nougaro, la fille de Claude, petite gamine de 14 ans qui danse dans le parc et que David fait venir à la table pour dîner avec lui. Et en fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'elle écoute comme musique. Et alors, elle dit oui, mais moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Elle dit oui, mais ça, on s'en fout. Mais t'écoutes quoi? C'est quoi les derniers disques que t'as achetés? Parce qu'en fait, il était d'une curiosité qui pouvait pas étancher, surtout à propos des jeunes. C'est-à-dire que je vais pas raconter ma vie à moi, mais la première chose qu'il me disait en général, ou la deuxième chose qu'il me disait quand il me voyait, c'est ils écoutent quoi tes enfants en ce moment, ou Thomas en l'occurrence, mon garçon qui est un petit peu plus âgé. Il y a que ça qui l'intéressait. Ah bon, il écoute ça, putain, Linkin Park, tu crois? Ah bon, ah oui, d'accord. Bon, voilà.
Et alors, c'est, quand je pense que j'écoutais Dorothée, je l'aurais pas intéressé. David Bowie.
Ah, peut-être, ça dépend.
Allez, premier succès de David Bowie auprès du grand public, c'est Space Oddity. Il vient de fêter cette année ses 50 ans dans l'espace, bien sûr.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Thank you.
is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard sur France Inter.
Je regarde parfois sur des titres comme Ground Control, To Major Tom, et je commence à m'y voir. J'écrivais des textes qui concernaient mes problèmes intimes. J'écrivais sur moi, et ce délire du grand vide spatial était une manière d'exprimer ce que je ressentais à l'intérieur.
Bowie, Lost in Space, c'est le sujet du NRV ce soir pour en parler autour de Jérôme Soligny, biographe et éminent spécialiste David Bowie, l'auteur, compositeur, interprète et dessinateur Kent. Et non, toujours pas, il est bloqué en taxi près du pont de l'Alma. Il n'est pas prêt d'arriver. Charles Berberian, le journaliste et la journaliste des Un Rock, Carole Boinet. Et enfin, Marion Guilbeault, notre Marion Guilbeault, à nous, notre programmatrice chérie. J'en ai fait beaucoup, hein.
Ouh là là.
C'est peu de dire. Jérôme Soligny, on vient d'entendre Space Oddity et vous ouvrez le livre, d'ailleurs, en évoquant le titre dans votre avant-propos et le lien notamment entre ce titre et les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Alors, c'est-à-dire que...
Quelle théorie vous en tirez?
Moi, personnellement, je répète maintenant ce qu'on m'a dit, ce qu'il m'a dit lui aussi, mais ce qui est assez marrant dans cette chanson-là, c'est, là, on est un petit peu dans ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a quand même quelques mythes à casser, quelques légendes à casser, c'est que c'est pas tant le film de Kubrick qui l'a influencé qu'en fait une simple photo de la Terre prise de la Lune.
Parce qu'on dit toujours que c'est 2001, Odyssée de l'espace, qui est à l'origine.
Alors, maintenant, j'ai eu la chance, le privilège, il n'y a pas d'autre mot d'avoir dans ce livre-là quelqu'un qui s'appelle Hermione Farthingale, qui était sa petite amie de l'époque. Et Hermione m'a communiqué m'a envoyé un scan de son agenda de l'époque avec ce qu'ils ont fait pendant le temps où ils étaient ensemble, au niveau des spectacles bien sûr. Et en l'occurrence, tel soir on est allé voir tel truc, voilà. Et donc elle m'a quand même dit que le soir il est sorti d'avoir vu 2001, il était quand même retourné comme une crêpe. Ouais. Mais en fait, la chanson est arrivée l'air de rien plus tard. Et c'est vrai aussi qu'il a absolument pas, en tous les cas, c'était pas son souhait à lui, mais ça a été celui de la maison de disque d'essayer de faire grosso modo coïncider ça avec les premiers pas de l'homme sur la Lune, tout en sachant que malgré tout, la BBC n'a jamais passé la chanson, en tous les cas, au moment des premiers pas de l'homme sur la Lune, parce que comme c'est l'histoire d'un cosmonaute paumé, il voulait pas porter la poisse à la mission Apollo.
On fête les 50 ans de Space Oddity. C'est marrant parce que cette chanson, elle est hyper forte. On dit que c'est son premier vrai succès public.
Oui, absolument. Celle-là, d'ailleurs.
Voilà, mais on a l'impression qu'elle a complètement écrasé tout le reste du disque, parce que je mets au défi quelqu'un là de dire autour de la table, à part vous, Jérôme, bien sûr.
Et Carole Boinet.
Peut-être Carole. Ouais, c'est quoi les autres chansons vraiment fortes?
Vous allez me reprendre si je me trompe. Letters to
Hermione, bah voilà, justement, c'est justement. Qui a un très beau morceau voilà, sur qui est sa première petite amie, hein, c'est ça, première, Hermione.
C'est pas sa première petite amie, mais
enfin, un peu connu,
c'est,
quoi.
C'est, on va dire que c'est une des femmes de sa vie.
Pardon
pour l'instant,
pour les autres.
Pour l'instant, je dis que ça.
Il y a une chanson qui s'appelle Janine aussi.
Ouais. Oui. Alors ça, c'est pas une petite amie à lui.
Mais Hermione, il est très beau parce que c'est, enfin, j'ai pas écouté depuis longtemps, mais c'est vraiment un morceau de mémoire sur. Enfin, une sorte de désespoir encore, quoi.
Mais en fait, c'est la Hermione est la et reste comme la jeune femme à l'époque qui a laissé tomber David Bowie pour faire autre chose et qui a pas fait grand chose d'autre à part qu'elle est heureuse et qu'elle
C'est déjà énorme.
Et qu'elle s'est épanouie en tant que femme. Alors bon, maintenant je la connais très bien, je lui parle souvent hier d'ailleurs et elle me dit quand tu penses encore que les gens sont méchants parce qu'ils disent toujours oui, c'est la fille qui a largué David Bowie, on la connaît pas. Elle me dit mais moi je voulais jamais être connue, j'ai voulu vivre une vie de femme et elle est super heureuse et elle est super contente. Bon, elle a parlé à David jusqu'à relativement tard, donc ils avaient une relation qui a toujours existé, mais elle a le privilège d'être la seule femme avec qui David a eu une relation sentimentale forte, dont le prénom est le titre d'une chanson. Voilà.
Charles Babrian, vous êtes de la même génération que Jérôme Soligny, donc vous aviez 10-12 ans au moment où sort ce titre, vous en avez un souvenir précis?
Et non.
Vous n'écoutiez pas du tout ça à l'époque.
Non. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision de David Bowie qui était très liée au glitter rock, hein, et ça m'intéressait pas à l'époque. Et en fait, j'ai commencé à écouter Bowie vraiment à l'époque de l'eau, parce que j'écoutais ce que faisait Brian Eno aussi. Et puis j'ai remonté le fil, c'est-à-dire que c'est vrai que les albums, je me suis arrêté en fait à Hunky Dory. Je suis pas allé plus loin dans le passé. Et l'eau, Hunky Dory, dans cette première période, ça reste quand même les albums que j'écoute le plus souvent. Même Ziggy Stardust, c'est pas l'un de mes albums préférés de cette époque-là. Mais je vais écouter. La Letters to
Hermione, moi aussi, ouais. Vous m'avez donné envie.
Ouais.
Oh, vraiment, c'est une programmatrice. Je vais revenir sur une histoire avec l'espace. Il y a eu Space Oddity, Ziggy Stardust, un extraterrestre, le film L'Homme qui venait d'ailleurs, un alien donc qui vient sur Terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec l'espace? Est-ce que c'est vraiment lié, c'est ce que dit la chanteuse Dana Gillespie dans votre livre, lié au fait que David Bowie était proche d'Anthony Newley, dont il était proche vocalement?
Alors disons que pour répondre,
et d'abord qui était de Newley pour tout le monde.
Ouais, alors Anthony Newley, c'est un espèce de chansonnier anglais de cette génération qui est un peu c'est pas facile. On n'a pas beaucoup d'équivalents dans le genre en français. Mais c'était un chanteur qui pouvait être un chanteur de charme, puis pouvait aussi être un chanteur drôle. Il avait une émission de télé. Il avait une émission de télé qui était un peu absurde, comme beaucoup de choses à la télé anglaise à cette époque-là. Enfin, tous ces gens, ces comiques un peu bizarres, qui ont inspiré beaucoup les Beatles, qui ont inspiré les Monty Python, qui ont exactement le même âge que David, avec qui il était proche.
Et il était fou d'extraterrestres par ailleurs.
Mais alors, c'est surtout parce que c'était la mode, exactement. Oui, voilà, c'était les années 60. Il y a eu l'apparition des premiers super-héros de Stan Lee. Il y a eu, effectivement, les grands romans de science-fiction qui datent tous de cette époque-là. Son choix d'aller vouloir essayer d'avoir de récupérer les droits de 1984, enfin 1984 de George Orwell, c'est pas tant que ça une originalité folle, en ce sens que tout le monde était complètement fasciné par Orwell. À cette époque-là, il a suivi énormément les thèmes de son époque, l'hindouisme, la passion pour le Tibet, c'était complètement la mode, puisqu'on commençait à vraiment à savoir le massacre perpétré par les Chinois, etc., au Tibet. Donc, il s'est engouffré dans pas mal de portes et parfois des portes ouvertes. Alors après, il a affiné le tir. Après, il était un des premiers à faire venir des couturiers comme Yamamoto, tout ça. Il a parlé de Mishima, alors que peu de musiciens parlaient de Mishima, faut bien reconnaître. Mais au départ, c'était vraiment les thèmes de l'époque et qu'il traitait. Puis en fait, ça, au moment où il y a cette passion pour l'espace, cette fascination pour l'espace, c'est aussi au moment où, grosso modo, il se fait larguer par la fameuse Hermione, là. Et tout d'un coup, j'ai vite fait de dire, ça y est, je suis paumé dans l'espace, je suis paumé dans la vie. Enfin, tout ça, c'est prétexte à faire de jolies chansons.
Oui, moi, j'ai l'impression que ça va un peu au-delà. Enfin, j'ai l'impression que, à la fois, ça parle aussi de son enfance où il était relativement ballotté. Il a toujours eu une sorte de sentiment un peu de solitude et d'abandon qui était un peu en lui. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un sentiment qui parle vraiment à l'être humain et que ça explique aussi un peu le succès du morceau, c'est-à-dire que le moment où en fait il se retrouve tout seul dans l'espace, le Major Tom, où en fait il peut pas appeler quelqu'un, il peut pas parler à quelqu'un, il peut pas partager sa solitude. C'est vraiment la plus grande angoisse en fait de l'être humain, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a mis cette angoisse là dans un morceau, qu'il a réussi à la traduire en musique, ce qui est incroyable avec le. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Non,
j'ai hyper
non,
peur
mais...
de parler devant lui. Le mélotron, le mélotron, le stylophone. Et en fait, il a réussi à trouver les bons instruments, donc le stylophone, le mélotron, pour qui en plus étaient des instruments qui voilà dénotaient vraiment la science-fiction, un truc très moderne à l'époque, mais qui dénotait aussi en fait une espèce d'angoisse. Enfin, c'est des bruits très étranges en fait dans ce morceau. C'est un morceau qui est complètement grandiose et qui à la fois est très pop parce qu'on peut pas l'arrêter en plein milieu, on est obligé d'aller jusqu'au bout, et à la fois qui est hyper complexe.
Enfin, absolument.
Enfin, moi j'ai l'impression que c'est un abîme de métaphysique. Enfin, vraiment, je
en fait,
ça vraiment
dingue. En fait, c'est même très proche. Et
Jérôme Soligny.
On l'apprend dans le livre. En fait, il y avait un genre musical qu'il adorait, qui était le prog rock, en fait, qui était exactement comme
Space
Oddity, c'est-à-dire des chansons découpées en trucs différents. Après, quand on a écouté Yes, on disait putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas incapables de garder un rythme, etc. Ça se barre dans tous les sens. Mais Space Oddity, ça se barre dans tous les sens. Quand il va faire son club folk, enfin, au Beckenham Hearts Lab, là où il y a une espèce de petit club folk où il fait venir tout le monde, le groupe résident, c'est un groupe prog rock dont on a totalement oublié le nom. J'ai retrouvé trois des membres, donc c'était rigolo d'avoir leur sentiment sur pourquoi Bowie les invitait, tout ça. Mais en fait, ils sont c'était type complètement barré, obscur, qui jouait un peu dos au mur. Il a rencontré sa première femme, mais la seconde femme dont on a beaucoup parlé, Angie, à un showcase de King Crimson, où il était allé parce qu'il voulait à tout prix entendre King Crimson. Alors ça lui a pas plu parce qu'il jouait le dos au public et qu'il y avait pas de glamour, etc. Mais musicalement, il adorait ça, quoi.
Et puis, juste pour revenir très rapidement à Space Oddity, moi, j'ai quand même l'impression aussi que c'est le témoignage, en fait, du loser sublime, quoi. On oublie souvent que Bowie, en fait, c'est vraiment le loser magnifique. C'est quelqu'un qui a galéré, je sais pas, une dizaine d'années, qui a eu je ne sais pas combien de groupes avant de percer enfin. Et en fait, ce morceau, c'est ça qui raconte, quoi. C'est aussi, je me retrouve tout seul dans un abîme de désespoir. Je suis dans l'univers, il y a personne autour de moi, il y a personne pour me sauver. Je suis vraiment le loser.
Alors, en fait, la raison pour laquelle le Major Tom est son premier personnage, c'est parce qu'en fait, il entretient déjà ça. C'est-à-dire qu'il est déjà un peu dans la création, c'est-à-dire qu'il n'a pas été si malheureux que ça pendant son enfance, il n'a pas été, je veux dire, il a toujours mangé à sa faim, il a son père qui l'a soutenu jusqu'à malheureusement cette année 69 où il est décédé, mais enfin, il a toujours son père qui l'emmenait avec les managers, qui discutait comment on peut faire pour l'aider. Il a aussi cultivé à un moment dans les années 70, il commençait
storytelling sur son enfant.
Oui, la victimisation à fond, mais à la fois c'est quand même quelqu'un qui est fan des autres, quoi.
Ah bah complètement.
Donc il admire tellement les gens et les jalouse tellement que c'est aussi lui qui.
Je sais pas s'il est jalouse tant que ça, mais
en tout cas il est fan de quoi.
Mais de toute façon c'est avant tout, et moi il me l'a dit enfin plusieurs fois comme il a pu le dire Eric Dahan, il est avant tout comme un mélomane, c'est-à-dire que il trouve qu'il y a rien de plus fort que la musique des autres.
Oui, puis c'est un fan, il a vraiment une attitude de fan, parce que moi je le vois jamais en train de jalouser, j'ai l'impression qu'en tout cas, il craque, il met en valeur, il va chercher les gens,
non seulement il jalouse pas, mais il va même essayer d'aider ceux qui sont dans la merde, même quand c'est ses héros, quoi.
Charles Berberian.
Oui, non, mais il y a quand même une blessure profonde chez Bowie, c'est son frère, la maladie de son frère, la dépression et la schizophrénie de son frère, et c'est quelque chose qui est très très présent, c'est un poids. C'est en plus quelqu'un qu'il admire, enfin Bowie admire son frère, et c'est violent pour lui ce qui est, et le suicide de son frère aussi, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que quand il fait Ziggy Stardust, il se vend comme une star, il ne l'est pas encore. Il a galéré pendant longtemps, il était à deux doigts du succès. Ça fait partie aussi de l'admiration que j'ai pour ce type, c'est cet entêtement en fait. C'est d'y croire avant tout le monde, mais c'est surtout de faire une œuvre avant même enfin la célébrité est partie intégrante, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'œuvre qu'il est en train de mettre en place.
Juste une question de fan de ma part. Vous avez rencontré Amanda Lear, qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
La première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne au niveau musique? Tu sais tout, plus que moi. Bon, voilà. Elle a dit maintenant, pour tout ce qui s'est passé en position horizontale, je sais que ça t'intéresse pas. Voilà.
Donc, ça vous intéresse vraiment pas.
Ça m'intéresse.
C'est pas pour ce livre-là.
C'est pour le tome 2?
Non plus.
Mais...
Non,
d'accord. Voilà.
Non,
elle
m'a dit des choses que je savais déjà, mais je voulais avoir le plaisir de la voir. En fait, je lui avais déjà parlé, mais pas pour l'interviewer vraiment. Donc, en fait, honnêtement, il y a eu un échange par email où elle m'a mis quelques bribes et que j'ai mis bout à bout, mais je l'ai pas vraiment emmerdé. C'est juste parce qu'en plus c'était drôle, parce que comme elle était sur la pochette du second album de Roxy Music et que David adorait Roxy, enfin tous les cas de cette époque-là.
Dans bon, un tailleur en cuir avec
c'était un espèce de clin d'œil, mais c'est pas la contribution la plus forte.
Non,
du livre,
je sais, c'est juste une question de fan. Parfait. Tout à l'heure, Carole Bonnet, vous avez cité Iggy Stardust. Pas du tout. Iggy Pop. Ziggy Stardust, Iggy Pop, ami et compagnon de David Bowie, on l'écoute tout seul. Aujourd'hui, il poursuit sa route, ben justement, en solitaire. Love's Missing.
She's thinking about something we all need. All need. Clock's ticking. Not giving her room to breathe, to breathe. Love screaming. Love's missing.
Love's Missing, Iggy Pop, la programmation Nid de l'Iguane de Jean-Baptiste Audibert. Il y a quand même du Bowie dans ce titre, vous ne trouvez pas, Marion Guilbeault?
Bien sûr.
Ah ouais,
bah
vraiment,
oui,
c'est qu'on aurait une sorte d'hologramme.
Mais de toute façon, il y a toujours une correspondance, c'est pas Jérôme qui va me contredire là-dessus, mais il y a toujours une correspondance très troublante entre eux. Il y a eu un moment, on ne sait pas lequel influence l'autre. Il y a des voix, même, moi je pense qu'il y a des moments où on ne sait pas qui chante. Ça peut être Bowie, ça peut être Iggy Pop.
Jérôme Soligny,
sur ce titre-là.
Parce qu'on parle de David Bowie, hein, je rappelle ça à nos auditeurs ce soir.
Iggy m'a donné une interview marathon. ton pour ce livre et au sujet de ce que vient de dire Mario. Il a dit en substance, je ne vais pas le dire en anglais, mais il dit « Jérôme, on a procédé à un échange.
Ah ouais,
je ne peux pas tout te dire sur l'échange, mais l'échange artistique était très réussi. » Voilà.
Ouais, ça veut dire qu'il y en a qui ont chanté la chanson de l'autre, quoi. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, puis aussi parce qu'en fait, David l'a fait chanter d'une certaine manière. Que lui avait envie de chanter comme ça. David, c'est en fait, il a fait chanter Iggy comme Scott Walker, qui est une des influences majeures de Bowie.
Et un crooner magnifique.
Voilà, en fait, quand il a vu que Iggy chantait, arrivait à chanter grave comme ça, bah lui aussi s'est mis aussi à chanter plus grave. Enfin, il y a eu effectivement Iggy a eu un côté cobaye, pour pas dire brouillon, mais en tous les cas cobaye. Il dit d'ailleurs dans le livre que ça le dérange absolument pas d'être le cobaye de David Bowie.
On parle de David Bowie ce soir dans le NRV avec nos invités Jérôme Soligny, Carole Boinet des Inrock, Charles Barbier, le dessinateur, Kent qui finit à pied là, parce que son taxi s'est arrêté au pont de l'Alma, donc il devrait nous rejoindre, et comme une place est libre, et ben parfait, c'était bien, elle est avec nous,
la grande
Charles
Sophie
aussi, et puis la grande Sophie est avec nous. Bowie pour vous, quelle influence?
Moi j'ai connu Bowie quand j'avais 14 ans, grâce à Let's Dance en fait, grâce à un tube.
Ça sera le deuxième tome pour...
C'est pour nous faire comprendre à quel point elle est jeune.
Mais en fait, non mais c'est vrai que les tubes parfois c'est important pour rencontrer un artiste.
Bien sûr, ouais.
Et voilà, moi j'ai connu ça quand c'était la période des booms, et j'avais pas de grand frère ni de grande sœur, donc ça a été une porte ouverte, puis il y avait des paillettes, donc...
Moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec Isabelle et Jenny, donc vous voyez... Mais non, c'est pas vrai. Marion est horrifiée, elle s'est dit mais travaille avec ce type.
Mais en fait, si vous saviez, c'est pas possible.
Ah bah tiens, prenez la relève.
Non, mais alors justement, aujourd'hui, donc, vous commencez par Let's Dance. Aujourd'hui, il y a une chanson, une période, un personnage préféré de Bowie.
Je crois que c'est un personnage, c'est-à-dire qu'il a traversé toute sa carrière en évoluant. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je trouve, de toujours sans cesse essayer de se renouveler. Non, moi j'ai plutôt des chansons, je dirais, des chansons que j'aime beaucoup comme China Girl ou Modern Love.
Plus la deuxième période.
Le deuxième tome pour Jérôme Soligny.
Après, j'aimais bien aussi, mais je saurais pas citer des titres. J'aimais bien la période un peu 60s. Oui, je crois qu'il y a des chansons
de David Jones
où c'est paru sur la BBC, un truc comme ça. Voilà. J'aimais bien cette période-là.
Jérôme Soligny.
Oui, c'est qu'à la fin de sa vie, il a effectivement, il a fait un gros flashback. C'est drôle parce qu'il disait toujours qu'il n'était pas nostalgique. Le plus drôle qu'il m'ait quand même dit, c'est qu'il avait rien de lui. Donc quand on a vu l'exposition et à Londres et à Paris, David Bowie is, je garde rien. D'accord. Donc là, et sachant que ce qu'on a vu dans l'exposition, c'était un dixième de ce qu'il a vraiment. Il garde rien, mais il a quand même ses cahiers d'école de quand il était cours préparatoire. Je sais pas si vous les avez gardés, moi je les ai pas gardés.
j'ai quand même autre chose à faire. Et puis j'habite à Paris.
Et alors donc, entre autres, il s'était replongé en fait, effectivement, sur un répertoire pour un album qui n'a jamais vu le jour, qui se serait appelé Toy, et dans lequel il reprenait des morceaux, et donc effectivement, même avant, qui s'appelle David Bowie.
Carole Boinet, est-ce qu'il y a eu vraiment un avant et un après avec l'apparition d'Iggy Pop dans la carrière de Bowie pour vous?
Oui.
Je la vois pensée en direct.
Vous me prenez au dépourvu.
Je
pensais que j'allais avoir la question et vous, votre morceau préféré de Bowie.
Vous pouvez y aller. Répondez à des questions qu'on ne pose pas.
Non, je pense que bien sûr qu'il y a eu un avant et un après Iggy Pop dans la carrière de Bowie pour plein de raisons que Jérôme pourrait mieux souligner que moi, mais pour des raisons très personnelles, pour des raisons aussi purement artistiques. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que Bowie, qui a grandi donc comme fan, est vraiment quelqu'un en fait qui s'est beaucoup inspiré des gens et qui en fait a beaucoup créé avec les rencontres aussi. C'est-à-dire c'est pas non plus un artiste absolu, créateur fou dans une tour d'ivoire. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui en fait allait main dans la main avec les autres gens, que ça soit ses musiciens, que ça soit Lou Reed, que ça soit Iggy Pop, que ça soit, on en oublie des tonnes. Mais voilà, je pense qu'il avait vraiment ce côté humain, en fait, qu'il a toujours suivi dans toute sa carrière.
Par rapport à ce livre qui vient de paraître, qu'est-ce que vous voudriez savoir, vous, sur David Bowie, en tant que journaliste? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez, que vous dites, tiens, peut-être que je pourrais les retrouver dans ce livre?
Je crois que la question que j'aimerais vraiment savoir, mais je sais pas si lui-même aurait pu répondre, c'est vraiment la question, on en parlait tout à l'heure, de la détermination. Moi, ça m'a toujours complètement fascinée, cette capacité qu'il a eue à tenir donc toute cette période que j'appelle la période un peu loser, de façon très méchante, mais voilà, où il s'est quand même hyper accroché. Et ensuite, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a cessé de se réinventer en prenant énormément de risques. Et moi, en fait, la prise de risque m'a toujours fascinée dans ma vie. Et parce que la prise de risque, implique des choix et implique vraiment d'être au bord du précipice. C'est-à-dire que le moment où il décide de tuer Ziggy, donc au Hammersmith à Londres, en plein concert, à la fin d'un concert, il prend la foule par surprise. C'est vraiment un moment où on se dit, mais il joue avec le feu, il joue avec sa carrière. Le mec, ça fait 10 ans et quelques qu'il essaye d'être connu. Il est enfin au firmament. Et en fait, il est en train de tout péter. Qu'est-ce qui se passe? C'est quasiment un suicide en direct. Et je trouve ça d'une beauté folle dans la prise de risque. Et c'est vraiment pas quelqu'un, en fait, qui s'est assis sur ses lauriers, quoi. Et voilà, j'aimerais qu'il dise ça, Bowie, qu'il m'explique ça, ou que Jérôme m'explique ça. Alors, d'où vient cette détermination? Comment on peut être aussi déterminé dans la vie?
D'abord, j'aurais pas la pression de parler à sa place, loin de là. Maintenant, tout ce que vous avez dit est exact. Ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'en fait, la motivation première au changement perpétuel, en fait, c'est l'ennui. C'est-à-dire que même Lou Reed a fait une chanson qui s'appelle comme ça, d'ailleurs le mot en français, à peu près au même moment, 2 ans plus tard. Mais en fait, il se lassait très très vite, et il se lassait finalement de lui-même, c'est-à-dire ou se lassait de ses incarnations. Et la raison pour laquelle effectivement il a tué Ziggy, alors forcément elles sont multiples. Il y en a qui sont purement artistiques, il y en a aussi qui sont liées au fait que il était en train de se rendre compte que ça allait devenir très très compliqué à plein de niveaux, donc il fallait arrêter.
À plein de niveaux, c'est-à-dire donner des
pistes. C'est-à-dire qu'en fait, dès 73, il a commencé à vouloir comprendre où était un peu son argent, parce que ça l'intéressait de savoir, parce que comme il avait donné 200 concerts dans l'année, il était un petit peu perplexe. Et là, quand il a compris qu'il n'en avait pas d'argent, il s'est dit, finalement, le système qu'il y a autour de moi en ce moment, donc il est pas tout à fait responsable de la création, c'est-à-dire qu'il s'est laissé user, voire abuser, mais c'est pas lui qui a pris les décisions, mais il en a profité, c'est-à-dire que le fameux manager Tony De Vries, qui l'a effectivement exploité à un moment, c'est quand même aussi lui qui l'a porté au nu, donc il faut savoir faire la part des choses. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a une faculté, cette détermination dont vous parlez, et c'est un super mot, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais elle va pour l'artistique, et elle va aussi pour lui en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il a la détermination d'arrêter Ziggy, comme quand il va être au fond du trou à cause de la drogue à Los Angeles en 75, il va avoir la détermination de se dire, alors qu'il est là, en proie à toutes les histoires, le satanisme, etc., les déviances à tous les points de vue, et là, il va faire comme de la chanson d'Adjani, voilà. Il va toucher le fond de la piscine, il va donner un coup de pied, il va remonter. Et il va se reconstruire, alors que malheureusement dans l'histoire du rock, il y en a plein qui sont allés au fond et qui sont restés au fond, quoi. Ça, c'est quelque chose de très comme la création, finalement, un peu plus tard de Teen Machine, quoi. À un moment où il sent bien que les années 80, il a quand même un peu merdoyé.
Pour moi, c'est le seul truc que je comprends pas chez lui. Teen Machine. Pour moi, ça reste une énigme.
Eh ben, je crois que c'est, et ça rejoint le côté humain dont vous parlez tout à l'heure. Je pense que il a fait Teen Machine en très grande partie, parce que il est tombé très, très ami avec le guitariste qui s'appelle Reeves Gabrons, qui avec qui il va faire 13 ans de sa carrière. Et en fait, il était, sous le charme de Reeves et vice versa, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, c'est une fois de plus, c'est un échange. Il lui a apporté ceci, il lui a apporté cela. Artistiquement, ils passaient plein de temps ensemble et tout. Reeves avait son numéro de carte, c'est lui qui achetait ses clopes, etc. Enfin bon.
Pour quelle raison ça vous dépasse, vous? D'un point de vue artistique?
Oui, d'un point de vue artistique. Oui, non, moi, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est une faute de goût totale.
Le premier album est pas mal quand même.
Moi, non, j'ai jamais. Je suis allée les voir en concert, bien sûr, mais j'ai jamais souscrit à ça. J'ai jamais compris Bowie là-dedans. Je me dis, on est quand même à une époque où il y a du grunge, où on est au début du trip-hop, enfin, il se passe beaucoup de choses très intéressantes qui auraient dû l'intriguer, l'entraîner vers ça, et il se barre pour faire une espèce de rock mainstream. Moi, je suis pas du tout fan du son de Reeves Gabrels, j'aime pas du tout ce qu'il fait à la guitare, donc du coup, j'étais vraiment complètement désarçonnée à cette époque.
Carl Bonnet.
Mais je crois qu'il y a vraiment je hochais la tête parce que j'ai l'impression que la notion de goût est hyper importante chez David Bowie, c'est une bonne porte d'entrée, c'est-à-dire que moi, très, très souvent, j'ai l'impression qu'il flirte un peu avec le mauvais goût, et parfois je suis quasiment un peu gênée, enfin parfois je prends un peu de recul et je me dis, mais même Ziggy pourrait quasiment être du mauvais goût, en fait, cette espèce de crinière rouge flamboyante, vraiment du maquillage outrancier. Bon, c'est une période glitter rock, glam rock, voilà, qui appartient à son époque, mais il a toujours flirté, j'ai l'impression, comme ça, avec des choses qui étaient on revient au fossé, quoi, qui étaient quasiment à côté de la plaque, mais chez lui ça l'était pas, c'était du génie, en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est un artiste génial, c'est qu'il en faisait quelque chose d'absolument incroyable,
intéressant à dessiner. Charles Berberian?
Oui, oui, bah oui, parce que bah déjà c'est une influence tout ce qui est peinture, dessin, la période l'eau, la trilogie berlinoise, c'est Gonchile. D'ailleurs, il recherche cette même maigreur. À l'époque, la drogue, ça sert surtout à ça, à pas beaucoup manger, à être le plus maigre possible. C'est aussi un peintre et un dessinateur, Bowie. Donc la partie graphique, elle est totalement intégrée non seulement dans son personnage, mais aussi dans le travail autour de sa musique, c'est-à-dire les pochettes de disques. J'ai toujours regardé avec beaucoup d'intérêt la manière dont il présentait son travail. Mais pour revenir à Iggy et à Lou Reed, c'est deux personnes qui l'a sauvé, en fait. C'est lui qui est arrivé dans leur vie, c'est pas le contraire. Et il les a... Iggy était en train de crever dans le caniveau quand il l'a sorti de là. Lou Reed, il était nulle part, en fait. Il avait enregistré un premier album solo à Londres avec des musiciens de Yes, parce que c'était des musiciens de studio à l'époque, et le disque se vendait pas. Et je pense que il a montré une détermination à les sauver, parce que c'était important pour lui de se fabriquer des frères qui pourraient sauver à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Lou Reed, ça a pas été son grand frère finalement, mais Iggy, oui, ils sont devenus frères. Enfin, il s'est inventé un frère.
Mais je crois qu'en fait, bah oui, il s'est toujours inventé des sortes de doubles, quoi. C'est un peu toute sa vie. Enfin, il s'est, en fait, tous ces personnages, c'est quasiment comme des frères qui s'inventaient.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sur le registre de l'invention. La grande Sophie, vous rejoignez le micro, parce que tout de suite, c'est vous qui allez partir, non pas...
Dans l'espace.
Dans l'espace, mais en live.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Elle est planquée derrière son piano.
Non, elle est très très bien derrière son piano. La grande Sophie, chanteuse du féminin depuis 8 albums et une vingtaine d'années, 8 disques qui construisent, qui dessinent une œuvre dynamique, toujours très mélodique. Alors on l'avait suivie, la grande Sophie, sur L'une et l'autre, son duo littéraire musical avec Delphine de Vigan. On l'a retrouvée cet automne avec Cet instant, son nouvel album, un disque un peu tournant dans sa carrière, un disque de prise de risque, comme celui de lâcher un petit peu sa guitare chérie pour le piano, un disque de bilan aussi avec L'ombre du temps qui passe, mais aussi le cran de se regarder dans le miroir et de chanter ce qu'elle y voit. Alors Sophie, ce soir vous avez choisi de jouer piano-voix, Où vont les mots, et c'est une chanson qui a une histoire particulière, je crois.
Oui, c'est une chanson que j'avais écrite pour Françoise Hardy, après avoir écrit Le Large, et elle n'avait pas terminé son album. J'ai écrit cette chanson très très vite en lui posant la question, qu'est-ce que tu voudrais, de quoi tu voudrais parler si on devait écrire une nouvelle chanson, et elle m'a dit, moi je ne sais pas, j'ai l'impression que toutes mes chansons tournent autour du même pot. Et du coup, je suis partie sur cette phrase, où vont les mots quand ils tournent autour du pot, et j'ai imaginé plein de choses.
Bah c'est à vous, on vous écoute dans le nouveau rendez-vous.
Ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi. Quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels, où vont les mots? Où vont les mots du toboggan vu d'en haut? Ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho. Ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure. Où vont les mots? Ceux qui s'imposent, dont on dispose, ce qui nous soigne, ce qui témoigne. Où vont les mots quand ils nous touchent en plein cœur, quand ils s'en donnent à cœur joie, j'en vois de toutes les couleurs, et quand ils restent murmures, qu'ils ont la peau dure. Où vont les mots? Ils se mettent à courir au bout du stylo à billes, quand ils savent qu'on les espère, quand ils nous jettent la pierre. Où vont les mots? Ceux qui résistent et se désistent, ceux qui résonnent et empoisonnent.
Son dernier album, Cet Instant. Et la Grande Sophie sera en tournée dès le 1er février à Béthune, avec des dates à La Réunion, au Mans, aux Émancipés de Vannes le 27 mars et à Istres. Toutes les dates sont sur notre site et sur le sien. La prise de son ce soir a été assurée par Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous, Sophie.
Et merci à tous nos invités. Merci Jérôme Soligny, David Bowie, Rainbow Man, 1967-1980. Ça vient de paraître chez Gallimard. Charles Berberian, on pourrait citer Playlist et Jukebox, qui sont disponibles respectivement aux éditions Helium et Flûte Glaciale. Carole Boinet, on vous retrouve dans les Inrocks. Merci aussi à Kent qui n'a pas pu nous rejoindre. C'était difficile hein, aujourd'hui d'arriver jusqu'à la maison de la radio, même à pied. Je rappelle sa BD Elvis, Ombre et Lumière aux éditions Seuil Delcourt. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV, la suite France Inter Plus. Mais demain, dans le NRV.
Justice pour ça.
C'est un très mauvais message pour la justice française de dire que quelqu'un est presque irresponsable parce qu'il a fumé un joint.
Psy et justice, le grand malentendu. On parlera bien sûr de l'affaire Sarah Halimi. En live, Marion.
On a rendez-vous avec l'électro inclassable, voire parfois médiéval, de Kyrie Chris Manson.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. Préparation, programmation, Virginie Rosic, Clémence Diligent et Benoît Lagan.
Rendez-vous.